La première,
20h-21h le week-end,
en quête de sens.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Jacques Nizin, la technique, Vinciane Colson, micro. Le pacte pour un enseignement d'excellence, stop ou encore, ce sera le sujet de notre émission ce soir. Tous les acteurs du pacte, syndicats, pouvoirs organisateurs et associations de parents ont à présent rendu leur avis sur le rapport qu'ils avaient donc présenté en décembre. Et autant dire que les avis sont mitigés et aussi entre le oui, plus ou moins franc et massif, le oui mais et le non mais. Quels sont les principaux griefs des acteurs? Le pacte pour un enseignement d'excellence a-t-il encore un avenir ou est-il mort-né? On va en discuter ce soir avec nos deux invités. Véronique de Thiers, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chargée de mission à la FAPEO, donc la Fédération des associations de parents de l'enseignement officiel. Vous êtes les derniers à avoir rendu votre avis en début de semaine et vous, vous êtes favorable au pacte et vous nous expliquerez dans un instant pourquoi. À vos côtés, Joseph Tonon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président de la CGSP enseignement et à l'image des autres syndicats, la CGSP a rendu un avis négatif ou plutôt un non mais, et vous aussi vous nous expliquerez ce que ce nom mais signifie. Et enfin, pour représenter les pouvoirs organisateurs, nous aurons par téléphone dans cette émission Fanny Constant, secrétaire générale du CECP, le Conseil de l'enseignement des communes et des provinces. Alors, on va aller dans un instant un peu plus en détail dans les avis de chacun, mais avant ça, est-ce que l'un et l'autre, ce pacte, vous y croyez encore ?
Bien sûr, nous sommes toujours autour de la table. Donc si on n'y croyait plus du tout, nous serions dans la rue en train de manifester contre le pacte. Ce n'est pas, nous en sommes pas encore arrivés à ce stade. Pour l'instant, nous posons des questions sur le phasage du pacte, l'opérationnalité du pacte et toute une série de questions qui sont posées en matière d'emploi. Enfin bon, voilà, il y a tout une série de questions qui ne sont pas résolues. Donc nous ne savons pas encore si nous allons continuer ou pas.
Mais vous y croyez?
Nous y croyons
en tout cas
toujours,
pour,
oui, pour l'instant.
Au niveau de la FAPEO?
Nous, on y croit et on a envie d'y croire. On trouve que c'est une chance incroyable et qu'on attend ça depuis des années. Donc oui, on y croit et on a envie de s'investir. Évidemment, on a les mêmes questions quant au phasage, à l'opérationnalisation. C'est effectivement des questions qui restent ouvertes et qu'il faudra travailler.
Oui, on va en discuter. Alors, revenons maintenant sur vos avis. Donc, au niveau de la CGSP, je le disais, vous avez remis un non mais. Alors, la principale inquiétude, j'ai l'impression, c'est l'emploi. Alors, concrètement, qu'est-ce que les profs ont, de quoi est-ce qu'ils ont peur, finalement?
Bien sûr, c'est l'emploi, mais c'est pas seulement l'emploi. Mais effectivement, l'emploi est une de nos préoccupations les plus importantes. Il n'y a dans le pacte, et je pense que ça manque, pas de garantie de préservation de l'emploi global. Donc c'est la première chose que nous demandons, c'est une préservation de l'emploi globalement. Mais ce qui est encore plus important pour nous, c'est la préservation de l'emploi individuel. Donc nous savons qu'il y aura des glissements d'emploi, c'est-à-dire qu'il y a prévision de renforcer l'enseignement maternel. Par contre, nous savons que dans le qualifiant, il y a une menace sur l'emploi. Donc nous souhaiterions que, comme le pacte est phasé sur une très longue période, nous puissions avoir une garantie de l'emploi. Et je pense que c'est possible. C'est possible puisque il va falloir réengager des enseignants, il va falloir modifier les structures. Donc nous pouvons phaser ça de façon à maintenir l'emploi individuel.
D'accord. Alors, je vous entendais dire il y a quelques jours qu'il n'y avait pas que l'emploi, mais que, par exemple, les profs n'arrivaient pas à se projeter dans l'avenir quand ils lisaient ce pacte, c'est-à-dire...
C'est un peu compliqué pour un professeur du qualifiant qui est maintenant plongé dans sa réalité de tous les jours avec des élèves qui sont compliqués, qui sont difficiles à gérer, de se dire, brusquement, je vais avoir des élèves qui ne seront plus dans cette configuration-là et je vais pouvoir travailler autrement. Pour eux, c'est impossible. Moi, je me mets bien à leur place. Ils ont des élèves qui n'arrivent difficilement à gérer, les conditions de travail très, très compliquées, et ils se disent, ça y est, on va m'empêcher de travailler comme je travaille maintenant. Donc, c'est normal que pour moi, il y ait cette réaction.
Alors, au niveau de la FAPEO, je le disais, vous avez remis un oui, un vraiment favorable. Est-ce que vous pouvez comprendre les craintes, par exemple, exprimées ici par les professeurs?
évidemment, on comprend tout à fait les craintes. Et du côté des parents, il y a aussi une vraie difficulté à se projeter. Donc, effectivement, quand on explique aux parents qu'on va diminuer le redoublement, qu'on va mettre des évaluations en place et que donc on va pouvoir aller vers un vrai tronc commun, il y a une difficulté parce que les parents nous disent « Oui, mais mon enfant, il est en difficulté en deuxième secondaire. » Et donc, si on l'oblige à rester dans le général, il va avoir des difficultés. Donc, il faut chaque fois faire l'effort de rembobiner et de dire « Projetez-vous ». Je veux dire, avec un vrai tronc commun, on mettrait en place de la remédiation, on détecterait les difficultés. Et donc, est-ce que votre enfant en serait au même stade actuellement si on avait mis tout ça en place? Donc, il y a cette vraie difficulté. Et oui, on comprend l'inquiétude, évidemment, des enseignants sur l'emploi. Mais je dirais, c'est pas notre préoccupation à nous en tant que parents. Malgré tout, il y a une vraie préoccupation, c'est que les enseignants doivent être formés pour les missions qu'ils vont devoir remplir demain. Et donc, ça, c'est une vraie préoccupation, c'est de savoir, effectivement, leur métier va changer. Comment est-ce qu'ils vont être formés pour cette remédiation, pour ce changement de regard vis-à-vis de l'évaluation?
Alors, vous n'êtes pas les seuls à avoir vraiment donné un avis vraiment favorable. Il y a toute une série d'associations qui ne sont pas parmi les acteurs du pacte et qui ne sont pas dans ce groupe central qui travaille sur ce pacte. Mais donc, cette semaine, il y a des organisations, institutions de défense des droits de l'enfant comme UNICEF, la Ligue des familles, la Ligue des droits de l'homme, le délégué général aux droits de l'enfant, il y en a d'autres, qui ont publié une carte blanche où ils disent qu'effectivement, il faut vraiment concrétiser ce pacte parce que c'est l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit primer. Vous êtes d'accord?
On partage, voilà, évidemment, on partage et on pense que vraiment, il faut mettre cet intérêt supérieur de l'enfant au cœur et au cœur des réflexions et que tous les acteurs doivent prendre ça en considération.
Alors, on va aller un peu plus en détail dans certains points qui ont soit posé problème, soit sur lesquels vous êtes d'accord. Un point sur lequel tout le monde n'est pas nécessairement d'accord, c'est le tronc commun. On en parle beaucoup. Alors, je voudrais qu'on écoute justement Fanny Constant. Donc, je disais, on l'a interviewée par téléphone. Donc, elle est secrétaire générale du CECP, le Conseil de l'enseignement des communes et des provinces. Donc, le Conseil de l'enseignement des communes et des provinces, ils ont remis un avis positif, mais sous conditions. Et il y a des conditions qui concernent notamment le tronc commun. On l'écoute.
Un véritable tronc commun polytechnique et pluridisciplinaire renforcé et donc allongé également d'une année est pour nous une bonne mesure. Maintenant, par rapport à ce tronc commun, il y a des précisions nécessaires que nous attendons et que nous proposerons d'ailleurs, parce qu'on est, comme l'ensemble des acteurs, une force de proposition. C'est que par rapport à l'enseignement fondamental, c'est assez nouveau. C'est 7 domaines d'apprentissage. Ça signifie qu'il y a toute une série d'apprentissages qui n'ont pas cours, en tout cas de manière officielle et structurelle, dans l'enseignement fondamental. Et donc, quelque part, l'enseignement fondamental va être fort touché aussi par ce tronc commun en termes de contenu et donc d'organisation. Et donc, ça questionne pour nous les grilles horaires. Qu'est-ce qu'il va y avoir en plus? À quel moment de la scolarité? Donné par qui? En combien d'heures, hein, donc vous savez que ça, ce sont toutes des questions voilà, plus organisationnelles. Et donc, c'est à ces questions-là que nous allons vraiment, vraiment nous atteler. Voilà, donc les instituteurs et les institutrices sont déjà des généralistes. Mais donc, les généralistes, on ne peut pas les étendre à l'envi. Et donc, qui va s'occuper de la culture? Qui va s'occuper de toute la sensibilisation aux disciplines plus techniques, technologiques, numériques? Voilà.
Alors peut-être Joseph Tonon, une réaction par rapport à ce tronc commun. On voit qu'au niveau de la CGSP, il y a eu des inquiétudes aussi par rapport à ça.
Oui, tout à fait. On partage ce que Fanny vient de dire. Nous sommes aussi pour un allongement du tronc commun jusqu'à la troisième. Mais je pense que le phasage est très important et il faut commencer effectivement par l'enseignement fondamental. Et un bon exemple, c'est le non-redoublement. Je pense qu'on est très inquiet, nous, par le non-redoublement. Madame Onkelings, à l'époque, avait supprimé, avait imposé le non-redoublement. Monsieur Azette l'a remis, et puis de nouveau Madame Schintz l'a changé. Donc vous voyez, et ça n'a rien changé, parce que interdire le redoublement fait que, entre la première et la deuxième, fait qu'en troisième, on redouble de nouveau. Plus. Donc ça, c'est la mauvaise conception du tronc commun. Le tronc commun, il ne doit pas être vu comme ça. Il doit effectivement être vu sous la forme d'un phasage à partir d'une cohorte, donc une génération d'élèves, en commençant par le fondamental, en introduisant les nouvelles disciplines, mais surtout, c'est le plus important, en mettant de la remédiation, et donc en intervenant là, au plus jeune âge, dès le plus jeune âge, de façon à avoir un élève qui est mieux formé et où on prend en compte ses difficultés tout de suite.
Et ça veut dire aussi que, évidemment, si le tronc commun est prolongé, donc on parle effectivement d'une prolongation jusqu'en troisième secondaire, on a du qualifiant qui va devoir se renouveler et qui va devoir s'adapter. Et ça aussi, vous le pointez dans votre avis.
Bien sûr, parce que, de nouveau, il ne faudrait pas mettre la charrue avant les bœufs et commencer, par exemple, par une réforme du qualifiant alors qu'on n'a pas vraiment mis en place le véritable tronc commun dans le fondamental et dans le début du secondaire. Si on essaye d'imposer une seule filière qualifiante maintenant, c'est un échec total. Et donc, c'est une inquiétude, évidemment, que nous avons sur le phasage.
Oui, d'où la question, effectivement, du phasage. Quand même, au niveau de la FAPEO, ce tronc commun, ça, c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et c'est vrai qu'au niveau de la laïcité, de façon générale, on sait que le Centre d'Action Laïque demande depuis longtemps une prolongation de ce tronc commun. Et c'est une préoccupation de la FAPEO aussi. Ouais,
effectivement, je pense que le tronc commun, on l'attend et on le demande depuis de nombreuses années. Bah, d'abord parce qu'on sait que orienter plus tard, c'est fondamental en termes d'égalité des chances aussi et de perspectives et de se poser la question de quelle école on veut pour quelle société. Donc je pense que ça c'est très très important. Donc ce tronc commun, on l'attend. Nous on aurait bien voulu jusqu'à 16 ans. Donc voilà, le consensus c'est 15 ans. Mais effectivement, Joseph a raison, c'est que pour réussir ce tronc commun, il va falloir vraiment investir dès le début, de mettre en place cette remédiation qu'on entend, ce mécanisme notamment remédiation, consolidation, dépassement, dès le fondamental. C'est très très important si on veut réussir. Nous, on a un petit questionnement concernant le redoublement et l'objectif de diminution de 50% de redoublement. C'est que effectivement, on voudrait bien comprendre si dans le tronc commun, la cohorte qui va rentrer dans le tronc commun, ça va bien être sans redoublement pour ces enfants-là, en tout cas.
D'accord. Et de nouveau, il y avait une carte blanche cette semaine de toute une série de professeurs de pédagogie, dont Marc Demeuse, Marc Romainville, qui avaient participé au groupe de travail et qui disaient qu'effectivement, s'il ne fallait garder qu'une chose du PAC, c'était ce tronc commun. Et donc, on a quand même l'impression que même s'il y a un peu des désaccords, c'est peut-être la chose sur laquelle il faudrait vraiment mettre la priorité. Est-ce que dans les premiers contacts que vous avez encore eu avec le gouvernement, est-ce que c'est quand même quelque chose qui risque d'être mis en premier lieu?
C'est un peu prématuré de le dire. Je pense que la volonté de commencer par le fondamental, ça, je pense qu'on est tous d'accord et que ce sera un des objectifs du pacte. Hein. On va commencer par le plus jeune âge. Ça, c'est indispensable. Maintenant, la suite du tronc commun, il faudra vraiment surveiller cette mise en place, faire des évaluations régulières. Hein. Je vais prendre un exemple. Et vous savez qu'à l'issue du fondamental, il y a une première différenciée. Pour les élèves qui sont en difficulté, qui n'ont pas leur CEB, cette première, elle est indispensable pour l'instant. Mais c'est vrai que si on réussit vraiment à amener les élèves à un meilleur niveau et beaucoup plus d'élèves à ce niveau, ben on peut éventuellement envisager dans 5 ou 6 ans de supprimer cette première différenciée. Mais on ne peut pas le faire maintenant. Voilà encore un exemple. Mais moi, je pense que oui, ce tronc commun, il est tel que nous le voyons, en tout cas à la CGSP, il doit être réalisé.
Oui, il y a l'air d'avoir une forme de consensus. Alors, une des choses que vous avez pointées chacun dans votre avis, aussi bien au niveau de la CGSP que de la FAPEO, c'est la question des réseaux. C'est-à-dire qu'au niveau de la FAPEO, on voit que vous regrettez le refus qu'il y a vraiment eu au niveau du PAC. On n'a pas parlé des réseaux. Au niveau de la CGSP, vous parlez de concurrence entre les réseaux et que c'est regrettable. Cette question des réseaux, c'est quand même vraiment un regret très fort pour la FAPEO d'abord.
Du côté de la FAPEO, ce qu'il faut pointer, d'abord parce que historiquement, on défend, on a une position qui est connue, qu'on défend un réseau unique. Donc effectivement, c'est un regret. Maintenant, on était tous les acteurs ensemble et donc c'est un réalisme. Le réalisme veut que ça n'ait pas été pris en compte. Mais par contre, ce qu'on pointe et qui est important, c'est de dire il y a une concurrence. Il y a une concurrence entre les réseaux, il y a une concurrence entre les établissements. Et il y a un objectif qui nous tient à cœur, c'est l'objectif de mixité sociale. Et je trouve qu'on n'a pas été assez loin sur cette question-là. Et donc, comment est-ce qu'on va faire ? Donc c'est vraiment un point important et je pense qu'on doit aller plus loin par rapport à cet objectif de mixité et que donc, oui, il va falloir parler en tout cas de l'inter-réseau, ça certainement.
Oui, comment par exemple pour des parents laïcs qui veulent que leur enfant puisse aller dans une école officielle, on va dire, de qualité pluraliste, quelles sont les garanties dans le pacte qu'on ait vraiment cette école officielle de qualité qui soit mise en place, qui soit soutenue, et spécialement dans le secondaire, est-ce qu'il y a des garanties qui existent quand même?
Il y a le plan de pilotage qui va se mettre en place, donc on espère que des objectifs seront fixés et des indicateurs tant quantitatifs que qualitatifs seront fixés. Et donc, il n'y a pas une garantie, c'est pas écrit noir sur blanc que on va avoir une garantie d'une école de qualité partout. Et c'est vrai que c'est une des inquiétudes des parents, c'est-à-dire que on va avoir peut-être des objectifs différents d'une école à l'autre, et donc les parents de l'officiel sont inquiets de la manière dont ils vont pouvoir choisir une école. Hein, donc c'est une véritable inquiétude, et donc on voudrait avoir un peu plus de précision par rapport à ça.
Sur la concurrence entre réseaux, là aussi vous l'avez pointé au niveau de la CGSP.
Bien sûr. Donc la CGSP, depuis, c'est son fondement, c'est la volonté d'avoir un réseau unique public. Bon, nous sommes très loin de cette réalité-là. L'enseignement libre confessionnel existe. Bon, voilà, il est là, il faut faire avec, comme on dit. Mais nous sommes dans un...
Ça veut dire que c'est vraiment un sujet qui reste totalement tabou, ça n'a pas été discuté.
En tout cas, dans le pacte, ce n'est pas dans le l'objectif du pacte. L'objectif du pacte, il est de travailler avec les réseaux. Bon, maintenant, ce n'est pas une raison pour ne pas pouvoir un peu contrôler le travail de ces réseaux. Hein, je pense que c'est un des objectifs louables. Pour l'instant, on a un quasi-marché scolaire. On a des écoles qui se vident pour remplir d'autres. Bon, il y en a d'autres qui prennent le public défavorisé, qui sont vidés d'écoles dites favorisées. Donc, on a vraiment un vrai marché scolaire. Et donc, on espère que le pilotage, donc le pouvoir régulateur, va essayer de mettre en place un contrôle, entre guillemets, hein, avec des grands guillemets, des pouvoirs organisateurs. Mais nous n'en sommes pas du tout sûrs. Et écrit comme il l'est pour l'instant, c'est une de nos grandes inquiétudes. Voilà. Je peux développer un tout petit peu. Par exemple, si l'on prend la question qu'on vient d'évoquer de la mixité sociale. La mixité sociale, c'est vrai qu'elle n'apparaît pas vraiment dans le pacte. Or, c'est un des grands objectifs de la CGSP, c'est de rendre les écoles avec une mixité sociale plus grande. Eh bien, on voit, est-ce que le pouvoir régulateur va vraiment pouvoir imposer ce critère-là au pouvoir organisateur, au directeur, à l'équipe éducative? Est-ce qu'il va pouvoir dire, votre école elle a un taux de départ beaucoup trop grand, beaucoup d'élèves quittent entre la première et la réto, il faut diminuer ce taux de départ. Est-ce que ce sera dans le pouvoir? Ça, c'est pas sûr que... Ce n'est pas écrit, en tout cas. Nous aimerions avoir des assurances sur ça.
Alors, ici, donc, tout le monde a remis son avis, tous les acteurs ont remis leur avis, et du coup, vous êtes revus ce jeudi. Donc, vous êtes revus au sein du groupe central avec les membres du gouvernement, en tout cas les personnes de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui représentent le gouvernement au sein du pacte. Bah déjà, comment ça s'est passé, cette rencontre?
C'est une rencontre qui était très informelle. C'est-à-dire que chaque organisation représentative, PO, organisation syndicale, fédération de parents, a exposé ses griefs. Parce qu'il y a toute une série de remarques. Donc on s'est chacun écouté, les uns les autres. Et puis les pilotes du pacte ont exposé une espèce de piste budgétaire, hein, de phasage. Et effectivement, ils... Dans une première approche, ils ont l'air de vouloir injecter un peu d'argent dans les premières années de démarrage du pacte. Mais nous n'avons pas été plus loin. On a simplement eu des chiffres, un début de phasage, et on nous a demandé d'analyser ça. On a reçu ça hier soir. On n'a pas encore eu le temps de se pencher dessus de façon approfondie.
Mais justement, au niveau de ce phasage, parce que c'est vrai que tous les acteurs ont un peu reproché qu'on manquait d'informations sur la priorisation, sur le phasage. Alors, comment est-ce qu'on voit les choses? Alors, effectivement, j'entends bien que ce jeudi, c'est resté encore assez vague, mais est-ce qu'on voit quand même un peu plus clairement au niveau du calendrier, par exemple? Est-ce qu'il y a des dates, des échéances qui ont été fixées?
Non, on n'a pas d'échéance exacte. On a une volonté de mettre en œuvre, par exemple, l'investissement dans le fondamental avant, effectivement, de revoir un tronc commun dans 5 ou 6 ans, voire 10 ans. Hein. Donc ça, évidemment, ça nous rassure un peu. Le fait qu'on injecte un peu de moyens, un peu, beaucoup, suivant la position où on se place, au début du pacte, ça nous rassure aussi. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Nous avons des inquiétudes ici dont on vient de parler, qui doivent être rencontrées. Et nous avons demandé à rencontrer le gouvernement, nous, organisations syndicale, pour voir si effectivement il y a des engagements de la part du gouvernement dans des séances proches. Et il faut absolument attendre la semaine prochaine, attendre les deux rencontres où on nous annonce des discussions là beaucoup plus difficiles, pour voir si effectivement on sera entendu.
Mais en tout cas, le gouvernement continue à vous faire confiance et laisse vraiment la réforme entre vos mains. C'est toujours les acteurs qui continuent à débattre ensemble et à essayer de trouver des pistes de solutions.
Et je pense que cette méthode-là a une limite. Donc nous atteignons la limite. Je pense qu'on ne peut pas faire de la co-gestion. Enfin, la CGSP n'a pas dans son core business de faire de la co-gestion. Donc à un moment donné, il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités et dise, j'ai l'avis du groupe central, j'ai l'avis du pacte. Il n'y a pas une adhésion totale, mais je donne certaines garanties pour pouvoir continuer. C'est plutôt dans cette conception-là que la CGSP voudrait continuer.
Alors, on va revenir sur un peu les espoirs quand même que vous mettez encore et sur l'avenir de ce pacte. Je voudrais juste qu'on écoute Fanny Constant, donc je le rappelle, le secrétaire général du CECP. On lui a demandé si dans les différents avis qui avaient été mis sur la table, il n'y avait pas une certaine forme parfois de corporatisme. Est-ce que finalement chacun ne défend pas un peu son réseau ? Et donc elle nous donne son point de vue là-dessus.
La vocation de l'école, elle nous intéresse évidemment dans le fondamental, mais pas que, parce que quand on travaille dans ce secteur, c'est l'ensemble du système que l'on veut voir en bonne santé et pas forcément un niveau plutôt qu'un autre. Franchement, je n'ai pas eu cette impression que les uns et les autres, en tout cas, travaillaient pour leur compte. On est tous représentants de certains acteurs et donc je comprends qu'à certains moments, on puisse peut-être y voir des aspects plus en lien avec ces acteurs, justement, en direct. Mais en tout cas, je pense que chacun s'est inscrit dans une logique d'amélioration du système dans son ensemble.
Alors, Joseph Tenon, vous représentez les professeurs. On sent que vous y croyez encore, vous le dites. Et en même temps, est-ce qu'il n'y a pas une certaine forme de décalage entre vous qui négociez, qui êtes dans les discussions dans le groupe central, et les professeurs, la base, où on voit qu'il y a quand même eu pas mal d'interrogations et ils sont peut-être moins optimistes que vous.
Mais oui, c'est tout à fait normal. Le professeur, il est dans sa classe, il colle, il est à la réalité, il est dans la réalité quotidienne et il colle l'image qu'il a de la réalité sur le texte qu'on vient de lui donner. Et c'est tout à fait normal qu'il soit inquiet. À sa place, je serais très inquiet, parce qu'il y a toute une série d'inconnus dans le pacte. Par contre, sur les objectifs, on est tous d'accord. Aussi bien les affiliés que moi, que les autres associations d'ailleurs. Un système inégalitaire, plus de mixité sociale, beaucoup trop d'enfants dirigés vers le spécialisé, champion du monde du redoublement, tout ça il faut modifier, on est d'accord. Mais donc c'est sur les modalités. Moi je partage avec tous les autres acteurs ces objectifs-là, mais je dois préserver les enseignants et leurs conditions de travail. Ils sont dans des conditions de travail très compliquées, leur charge de travail est très lourde et ils ont évidemment peur qu'on alourdisse encore leur charge, que le pacte repose uniquement sur leurs épaules. Et ça, moi, je dois veiller à ce que ce ne soit pas le cas.
Est-ce qu'au niveau des parents, justement, on parle de mixité sociale, etc., qu'est-ce qui, dans le pacte, vraiment, vous rassure sur le fait qu'on va vers plus de mixité sociale, vers vraiment cette amélioration de l'enseignement de façon générale ?
Il n'y a pas grand-chose qui nous rassure sur la mixité sociale dans le pacte. Hein, donc, je pense que c'est vraiment...
Là-dessus, c'est un peu le point noir, justement.
Je pense que c'est vraiment le point noir du rapport. Je pense que c'est vraiment un point à améliorer, donc très certainement. Donc, voilà. Mais je pense qu'il y a des éléments qui nous rassurent dans le pacte. D'abord, j'ai quand même envie d'insister sur effectivement les constats qui ont été faits et que tous les acteurs étaient d'accord sur ces constats. Donc l'immobilisme, on peut plus. On peut plus et on doit avancer. Donc l'ensemble des acteurs étaient autour de la table, des acteurs très différents. Et donc je trouve que l'avis qu'on a réussi à émettre a dépassé quand même des positionnements. Et donc je trouve que c'est intéressant. Le tronc commun, c'était pas une évidence. Donc on a vraiment avancé et il y a vraiment de l'espoir qu'on aille plus loin. Mais la situation sur le terrain, je dirais que pour les parents, c'est la même chose que pour les enseignants. Ce qu'ils vivent au quotidien actuellement, ils ont du mal à se projeter avec ce qui est proposé. Donc on est tous, je pense qu'on est tous dans la même situation.
Oui, c'est vrai que cet immobilisme, ça, je pense que ça ressort effectivement dans tous les avis, que ce soit dans les pouvoirs organisateurs, les associations de parents, les syndicats. On est tous conscients qu'on ne peut pas rester dans la situation actuelle et qu'il faut bouger. Alors, pas tout le monde n'est pas nécessairement d'accord sur comment il faut bouger, mais en tout cas, il faut bouger. Je voudrais revenir aussi sur une chose dont on n'a pas encore parlé, c'est la question du maternel. Parce que là, de nouveau, il y avait un certain consensus, on voit dans les avis, c'est-à-dire que tout le monde est assez d'accord pour dire que le maternel, il faut investir, il faut le soutenir.
Oui, oui, ça, il n'y a pas de souci. Moi, je pense que les difficultés pour l'instant, le système, il est tel qu'on constate des difficultés en maternelle. Hein, par exemple, dans une classe de 24, on détecte deux élèves en difficulté. On sait que leur milieu social n'est pas favorisé. Et que fait-on pour l'instant, aujourd'hui? Rien. Rien. On laisse ces élèves dans leur état. Ils doublent souvent, déjà dans le fondamental. Donc, il faut vraiment agir là, à 5 ans. La capacité de l'enfant à s'améliorer à ces tâches-là est très grande. Donc, c'est vraiment la clé, pour moi, de l'amélioration du système éducatif. C'est d'agir très tôt.
D'accord avec ça, Véronique
Le Thiers ? Là, je pense qu'on est tous vraiment, c'est unanime de dire que les inégalités, c'est là qu'elles commencent. Et donc, effectivement, il faut mettre les moyens, commencer par là, pour permettre à ces enfants de ne pas redoubler, de ne pas être relégués dans le système plus tard.
Alors, on arrive déjà à la fin de cette émission, mais juste pour terminer, je pense que je voudrais vous demander vraiment quels sont les espoirs maintenant et ce que vous espérez concrètement. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Qu'est-ce que vous espérez dans les prochaines semaines? Alors, peut-être Véronique De Thiers.
Dans les prochaines semaines, moi, j'espère vraiment qu'on va arriver au niveau du groupe central à avancer sur des points qui nous tiennent à cœur. Je pense que ça, c'est très, très important. Et puis, à un moment, quand il faut y aller, il faut y aller. Donc, il faudra que le gouvernement se saisisse de l'avis du groupe central et fasse le point, avance, fixe les priorités, et puis qu'on puisse avancer dans la mise en œuvre où, effectivement, nous souhaitons, bien sûr, être associés. Donc, je pense que ça, c'est un point important.
Oui, que continuez d'être impliqués dans le processus.
C'est un travail qu'on a fait depuis 2 ans. Je pense qu'on s'est énormément investi. Et donc, pour nous, il est très, très important parce qu'il faut savoir que les parents n'ont pas des concertations comme en ont les syndicats et les PO. Et donc, pour nous, il est très, très important que ce travail puisse continuer au sein du groupe central.
Alors, on va écouter l'espoir de Fanny Constant et puis vous écoutera Joseph Tenon.
Alors, l'espoir pour la suite, eh bien, c'est que l'on prenne la pleine mesure de l'accompagnement nécessaire des différents acteurs à la mise en œuvre des réformes qui devront arriver, qui arriveront visiblement très vite, qu'il y ait une bonne part de retour dans les différentes institutions pour expliquer, pour entendre, de sorte à ce que cela nourrisse les négociations qui vont venir. Donc la mise en œuvre de ce pacte, elle va être phasée sur 15 années. Donc ça signifie que nous nous apprêtons à 15 années de discussion et de négociation. Puisque si je prends par exemple l'exemple du tronc commun, vous venez d'en parler, le tronc commun serait mis en œuvre entre 2024 et 2026 par exemple. Donc ça laisse le temps de discuter de ces orientations, ça laisse le temps de se préparer à la négociation pour que la mise en œuvre soit la plus opérationnellement efficace et dans le respect aussi des réalités. Et les réalités, elles vont continuer à bouger. En 15 ans, le système va encore bouger. Et là où moi je suis assez confiante, c'est que ce dispositif va être assorti de tout un processus d'auto-évaluation, d'autorégulation tout au long de la mise en œuvre.
Alors Joseph Senon, vous, votre espoir pour les prochaines semaines, pour la suite?
Alors moi je voudrais, une première chose, c'est qu'on entende bien le non, parce que de temps en temps, on a l'air de dire que c'est oui.
Alors, pour c'est la CGSP, vrai que c'est ce qui ressort parfois un peu, mais en même temps de votre discours aussi, c'est-à-dire que vous êtes assez positif dans un sens.
Bien sûr, mais le non est quand même là. Donc ça veut dire que les gens de terrain, les enseignants de terrain ont dit non. Il ne faut pas nous demander de transformer ça en un oui. Bon, ça c'est une première chose. Donc il faut que le gouvernement, et Fanny Constant vient bien de l'expliquer, prenne ses responsabilités à un moment donné, accepte le non des gens de terrain, mais rende compte de leurs difficultés. C'est-à-dire qu'on a lister toute une série de revendications, de choses qu'on voudrait préciser ou améliorer dans le pacte, qu'on réponde à ces interrogations, à ces précisions, et puis qu'on se mette au travail. Et là, on veut bien participer, mais qu'on ne nous demande pas nécessairement un blanc-seing sur 325 pages qui ne sont pas précises. Voilà. Si on entend bien ce message-là, je pense qu'on peut continuer à travailler ensemble.
Et ici, au niveau très concret, vous allez vous réunir fin février, vous devez rendre quelque chose,
Mais donc, il y a deux réunions la semaine prochaine. Nous avons demandé une rencontre avec le gouvernement. Je pense qu'on peut dire qu'elle sera acceptée. Il n'y a pas de souci avec ça. Nous avons déjà eu des premières réponses. Donc, ça dépendra et des deux réunions et de la rencontre avec le gouvernement, bien entendu. Je ne peux pas vous en dire plus.
Voilà. Mais donc, on retiendra qu'il y a des oui francs et massifs. Il y a des non qu'il faut quand même entendre les non, même si vous restez positif. Et on suivra évidemment l'évolution de ce dossier et la concrétisation, on l'espère. En tout cas, une des choses qui ressort, c'est clairement qu'il faut vraiment changer l'enseignement, il faut améliorer cet enseignement. Donc là, je pense qu'il y a un oui de tout le monde là-dessus, en tout cas. En tout cas, Véronique Detière, donc pour la FAPEO, et Joseph Tonon, donc de la CGSP, merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine sur la première pour un nouveau rendez-vous de la laïcité. Bonne soirée à tous.
En quête de sens
sur la première.